Monsieur le recteur, vous avez insisté en présentant ce projet de Cité scolaire internationale de Marseille sur la beauté, sur le caractère unique de cette cité. Vous pouvez justement expliquer en quoi c'est unique d'abord ?
Alors, en quoi c'est unique ? C'est que dans le projet pédagogique, pas le projet architectural, cela ira de l'école jusqu'aux portes de l'université. Je souhaite même qu'il y ait un lien étroit avec l'université. Le président Berton est parfaitement au courant de tout ça. Ça, c'est unique. Actuellement, on trouve en France ou à l'étranger des cités scolaires qui ont collège-lycée. On trouve des écoles internationales, mais on trouve rarement école, collège-lycée. Ça, c'est unique.
Vous avez aussi obtenu, même avec un amendement, un article de la loi l'école de la confiance, justement quelque chose pour cette école.
Oui, tout à fait. C'est un article qui a été conçu spécialement pour cet ensemble scolaire, à savoir un seul directeur, avec des adjoints bien sûr pour les différents niveaux. Ça me paraît absolument nécessaire qu'il y ait un seul chef d'orchestre dans un tel établissement.
Vous avez aussi dit il y a 5 langues enseignées. Vous avez souhaité qu'il y en ait mis bien plus. Alors d'abord, quelles sont ces 5 langues et comment les avez-vous choisies ?
C'est un travail qui a été fait essentiellement par les inspecteurs d'académie. Les 5 langues, évidemment, on y trouve dès le départ l'anglais, bien sûr, et l'allemand, mais on trouve également l'arabe, le chinois et l'espagnol. Et c'est vrai, tout à l'heure, j'ai dit que je souhaitais qu'on y introduise le portugais, qu'on devrait appeler plutôt le brésilien, parce que les Français connaissent bien le Portugal et il y a beaucoup de Portugais qui sont venus sur le territoire français, mais on oublie que le Brésil, c'est la grande langue du Portugal. Et si on avait toutes ces langues, nous aurions les 6 langues les plus parlées à travers le monde.
Alors vous avez aussi signalé qu'il y avait des écoles à Marseille qui enseignaient une langue en immersion.
Oui, bien sûr, il y en a 60. Et avec l'inspecteur d'académie, nous espérons les augmenter. C'est un très beau chiffre. Bon, pour l'essentiel, c'est l'anglais, évidemment. Ça signifie que dès le primaire, on commence à enseigner l'anglais. Et les enfants sont très à même de rentrer rapidement dans une langue. C'est instinctif chez eux, c'est même plus facile que des adolescents. Et il faudrait que Marseille devienne une ville où nous ayons une grande partie d'écoles en immersion. Pour cela, d'ailleurs, nous pouvons compter sur beaucoup d'enseignants des écoles qui ont aujourd'hui des aptitudes à enseigner dans telle ou telle langue moyennant une certification. Et nous allons aller de plus en plus dans ce sens.
Une enseignante de langue provençale, du provençal, m'avait dit que ça permettait de rompre les inégalités scolaires. Est-ce qu'il en est de même pour ces langues en immersion ?
Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, il y a quelques années, je n'ai supprimé aucune bilangue dans l'académie, en particulier à Marseille, parce que nous avions, par exemple, l'allemand, qui est réputé une langue difficile pour des Français, qui est enseignée dans des quartiers d'éducation prioritaire. Oui, bien sûr. Un enfant auquel on propose cela, il voit très bien que c'est une richesse qu'on lui propose et il sait s'en emparer.
Pour la beauté, vous dites que la beauté du lieu mène à la paix de l'esprit, à la paix de l'apprentissage, à l'envie d'apprendre.
Oui, ça me paraît très important. Permettez-moi un tout petit souvenir, j'ai fait mes études à Paris et j'adorais travailler à la bibliothèque de la Sorbonne simplement pour le lieu. Il y avait une paix profonde et je crois qu'on travaillait mieux. Et il y a beaucoup de très beaux établissements dans l'académie qui sont souvent des bâtiments du 19e ou du début du 20e. Il faut qu'il y ait une beauté, il faut qu'il y ait une certaine majesté également. Il faut que l'enfant se sente dans un lieu sanctuarisé. Et pendant quelques années, nous n'avons pas pu faire cet effort parce qu'il fallait accueillir beaucoup d'enfants. On a construit très vite. Je crois que c'est un peu comme les palais de justice, il faut que ça reflète une certaine autorité.
La grosse question que semble poser cette cité internationale, c'est celle de son accès. Son accès, par exemple, aux Marseillais du quartier où elle est implantée, à Rincques.
Oui, nous allons travailler avec la mairie et avec l'inspecteur d'académie pour que la carte scolaire soit ajustée en ce sens-là. Il ne s'agit surtout pas de faire quelque chose qui est implanté dans un quartier qui ignorerait le reste du quartier. C'est d'ailleurs la même chose que pour l'école La Belle de Mai.
Vous dites aussi que si elle est réservée aux classes CSP++, aux classes favorisées, finalement ces élèves seront défavorisés par cette méconnaissance de la richesse, de la diversité de Marseille.
Ah oui, ce serait d'ailleurs aberrant de proposer à ces jeunes qui vivent dans des situations sociales très favorisées, et c'est très bien pour eux, franchement, voilà. Mais ce serait les défavoriser en réalité que de leur dire on va vous ouvrir le monde et on va vous refermer le propre monde marseillais. J'ai eu la grande chance, moi, de connaître un enseignement où il y avait tout le monde. Et c'est vraiment une très grande richesse. Et puis, ça cultive un petit peu une part de modestie, d'humilité, ce qui n'est jamais inutile pour la suite.
Et vous avez voulu cette cité scolaire gratuite ?
Oui, enfin gratuite, en tout cas, oui, selon les modalités habituelles de l'enseignement public en France, qui est effectivement gratuit. Oui, nous avons beaucoup réfléchi à cela, mais ça nous est apparu comme la solution la plus normale. Même si, par parenthèse, je ferai une petite remarque, lorsque des parents de milieux très favorisés, très aisés viennent, en réalité, c'est un avantage qu'on leur fait à eux, puisqu'on ne leur demande rien, alors qu'éventuellement, ils pourraient payer. Mais la solution la plus simple était de fonctionner selon le code de l'éducation tel qu'il est.
Enfin, nous sommes en crise sanitaire. Quelle est la situation dans les écoles ? Parce qu'on entend maintenant dire que les enfants seraient vecteurs, et notamment des variants.
Là-dessus, je ne suis pas scientifique. On voit bien que les avis divergent. Il y a une chose à dire et à répéter. La France est le seul pays d'Europe actuellement où l'enseignement est maintenu. C'est le seul pays où les écoles, les collèges et les lycées fonctionnent. Il n'y en a pas deux, il n'y a que notre pays. Je crois que tous les Français y tiennent. Et il faut aussi dire une chose, c'est dans ces établissements que les mesures de sécurité sont bien respectées et c'est là que les enfants courent le moins de risques. On voit bien que dès qu'ils sortent et lorsqu'ils ne sont plus sous l'autorité de l'éducation nationale, eh bien, c'est là que se produisent des regroupements qui ne sont pas toujours très heureux. Donc il n'est pas question de fermer les écoles, les collèges et les lycées. Ce serait une mesure qui entraînerait automatiquement le blocage de tout le pays.